Chapitre 10. Des yeux invisibles. Quand Egwene revint sous sa tente, Selam l'attendait. Grande femme mince au teint sombre typique des Théariens, elle affichait une assurance imperturbable. En relevant son long nez, Chessa l'avait bien observée, comme si elle voulait l'éloigner d'une mauvaise odeur. Cela dit, si elle regardait de haut les autres domestiques, Selam changeait du tout au tout en présence de sa maîtresse. Dès qu'elle aperçut Egwene, elle se fendit d'une révérence si profonde que sa tête faillit toucher le tapis, déployant sa jupe aussi largement que possible dans un espace si étroit. Egwene n'eut pas le temps de faire deux pas avant que la servante fonde sur ses boutons comme un faucon sur une proie.
« Mère, tu es encore sortie sans te couvrir la tête !»
En matière de maternage, la pauvre Selam battait des records. Comme si Egwene n'avait jamais porté une des coiffes dont Selam raffolait, un des bérets en velours qu'aimait Mary, ou un des chapeaux à plumes qu'adorait Chessa.
Regarde comme tu trembles. Tu ne devrais jamais t'aventurer dehors sans un châle et une ombrelle.
Comment une ombrelle était-elle censée empêcher quelqu'un de trembler? Alors qu'elle ruisselait elle-même de sueur, Selam ne songea pas à demander à sa maîtresse pourquoi elle tremblait. Ce qui était sans doute une bonne chose.
As-tu pensé à tous ces soldats? Des brutes qui n'ont aucun respect pour les femmes, pas même les Aes Sedai? Mère, tu ne devrais pas...
Et Gwen laissa ce torrent de mots déferler sur elle sans la toucher vraiment. Dans le même ordre d'idées, elle pensa à autre chose, tandis que la servante la déshabillait. Lui ordonner de se taire aurait provoqué tant de regards blessés et de soupirs accablés que ça n'aurait rien arrangé. Si on oubliait son bavardage, Selam s'acquittait très bien de sa tâche, même si elle avait tendance à faire montre d'une pompe dont Egwene se serait bien passée. Pouvait-on être aussi stupide que Selam? Se demanda pourtant la chère d'Amerline. Toujours soucieuse des apparences, et inquiète de ce que les autres pouvaient penser. Pour elle, le monde se réduisait aux Aes Sedai, aux nobles et à leurs serviteurs de haut rang. Selon sa vision des choses, personne d'autre ne comptait. Et au fond, elle croyait peut-être que personne d'autre ne pensait. Non, on ne pouvait probablement pas être aussi stupide. Mais il ne fallait pas oublier qui avait déniché Selam et Mary avant elle. Certes, Chessa était un présent de Sheryam, mais elle avait plus d'une fois prouvé que sa loyauté allait à la chair d'Amerline. Egwene aurait voulu se persuader que ses frissons, que ses lames attribuaient au froid, exprimaient uniquement sa colère. Hélas, il y avait un peu d'angoisse avec la fureur. Elle était allée trop loin et avait encore trop à faire pour supporter que Nicolas et Areina lui glissent des bâtons dans les roues. Alors que sa tête émergeait du col d'un chemisier propre, Egwene capta des bribes du bavardage de ses lames et sursauta.
« Tu viens de dire lait de brebis ?» « Oui, mère. Ta peau est si douce. Rien ne l'entretiendra aussi bien qu'un bain dans du lait de brebis. »
Stupide, cette femme? Peut-être bien débile, oui. Après avoir éjecté la servante, non sans subir ses protestations outragées, Egwene se brossa les cheveux, ouvrit son lit de campagne, rangea la dame désormais inutile dans le coffret où elle entreposait ses rares bijoux, puis éteignit les lampes.
« Tout ça toute seule, »
pensa-t-elle malicieusement dans le noir.
« Ces lames et Mary vont piquer une de ses colères ?»
Avant de se coucher, cependant, elle gagna l'entrée et écarta très légèrement le rabat. Dehors, la nuit était parfaitement calme, n'était le cri soudain d'un héron qui s'acheva sur un hurlement. Des chasseurs rôdaient dans la nuit. Quelques secondes après le hurlement, quelque chose bougea dans les ombres, près d'une tente. On eût dit une femme. Qu'elle fût idiote n'excluait pas qu'il puisse s'agir de ses lames. Et ça pouvait être aussi Mary, malgré sa tendance à tirer la tête. Oui. Ça pouvait être l'une ou l'autre, ou aucune des deux. Nicolas ou Areina? Hautement improbable, ça. Et Gwen lâcha le rabat avec un petit sourire. Qui que soit cette espionne, elle ne saurait pas où elle allait ce soir. La façon de s'endormir que les matriarches lui avaient enseignée était très simple. Les yeux fermés, il fallait sentir chaque partie de son corps se détendre et respirer en rythme avec ses pulsations cardiaques. L'esprit parfaitement vide, il suffisait de se laisser dériver. Le sommeil vint très vite, mais c'était celui d'une femme capable de marcher dans les rêves. Sans substance, Egwene dérivait dans un océan d'étoiles, une infinité de points lumineux, brillant dans une obscurité tout aussi infinie. Ces lucioles étaient les rêves de la totalité des gens endormis en ce monde, et peut-être dans tous les mondes qui existaient les uns à côté des autres. Egwene se trouvait dans la zone qui séparait la réalité de Telaran Riod, en d'autres termes, l'étendue qui servait de frontière entre le monde éveillé et celui des rêves. Partout où elle regardait, 10 000 lucioles s'éteignaient en un clin d'œil, parce que des gens se réveillaient, et 10 000 autres s'allumaient pour les remplacer. un spectacle merveilleux qui ne cessait de changer. La jeune femme ne se perdit cependant pas en contemplation. Cet endroit n'était pas sans danger, et quelques pièges pouvaient se révéler mortels. Certaine de pouvoir échapper aux pires chausse-trappes, et Gwen se savait très vulnérable à une des « tentations » typiques de ce lieu. Si elle s'attardait trop et tombait dans le panneau, ça risquait d'être, eh bien, très embarrassant, au bas mot. Gardant l'œil ouvert, une image, puisqu'elle n'avait pas Dieu ici, elle se déplaça. Comme toujours, elle n'eut pas l'impression de bouger. Au contraire, il lui sembla que c'était l'écran noir constellé de lucioles qui dérivait autour d'elle, jusqu'à ce qu'elle ait repéré le point lumineux qu'elle recherchait. Alors que toutes les lucioles se ressemblaient, elle sut avec une absolue certitude qu'il s'agissait d'un rêve de Ninevée. Comment était-ce possible? Elle l'ignorait, et les matriarches elles-mêmes n'avaient pas d'explication à ce prodige. Et Gwen avait d'abord envisagé de trouver les rêves de Nicolas et d'Areina. Si elle connaissait les songes des deux femmes, instiller dans leur cœur une sainte terreur de la lumière serait un jeu d'enfant. Et tant pis si c'était strictement interdit. Si elle avait renoncé, c'était par sens pratique, pas parce qu'elle tremblait devant telle ou telle transgression. Depuis son départ de Champ des Mondes, elle n'en était pas à sa première, et elle continuerait si ça s'imposait. Faire ce qu'il fallait, puis payer le prix ensuite, voilà ce que lui avaient enseigné les femmes qui, parallèlement, lui avaient dressé la liste de tous ses interdits. Trop souvent, c'était le refus de reconnaître sa dette et de s'en acquitter qui transformait la simple nécessité en transgression malsaine. Même en supposant que Nicolas et Areina dorment, localiser pour la première fois le rêve de quelqu'un était très difficile, et sans garantie de succès. Des jours d'efforts, enfin des nuits plutôt, pouvaient très bien ne déboucher sur rien, alors que la démarche qu'elle avait adoptée ne pouvait pas échouer. Toujours avec le sentiment que c'était son environnement et pas elle qui se déplaçait, Egwene approcha lentement de la luciole, qui grossit peu à peu, devenant une perle brillante, puis une pomme iridescente, et enfin une lune pleine qui envahit sa vision et l'éblouit. Au début, elle ne toucha pas la surface scintillante, dont un espace plus fin qu'un cheveu la séparait. Puis elle tendit un bras et traversa cet intervalle. Un bras, alors qu'elle n'avait pas de corps? Eh bien, c'était un autre mystère, comme cet instinct infaillible qui lui permettait de distinguer un rêve d'un autre. L'œuvre de sa volonté, affirmaient les matriarches, mais ça n'expliquait pas vraiment grand-chose. Comme si elle venait de poser le bout de ses doigts sur une bulle de savon, et Gwen sentit la cloison scintillante pulser tel un cœur. Si elle appuyait un peu, elle verrait ce que rêvait Ninevée, et avec une pression plus ferme, elle pénétrerait dans le songe et en deviendrait un des acteurs. Tout cela n'était pas sans danger, surtout quand on avait affaire à un esprit puissant, mais qu'on observe ou qu'on s'introduise, on pouvait toujours avoir une mauvaise surprise. Par exemple, lorsqu'une femme rêvait à un homme qui l'intéressait tout particulièrement. Dans ce genre de cas, il fallait la moitié de la nuit pour s'excuser. Et Gwen pouvait aussi exécuter une sorte de mouvement de crochet, un peu comme on fait rouler une perle fragile sur le plateau d'une table, et sortir Ninevée de son rêve pour l'attirer dans un songe de sa création. En fait, une partie du monde des rêves, sur laquelle elle exerçait un total contrôle. Cette méthode marcherait, et Gwen n'en doutait pas. Mais ce n'était pas vraiment très licite, et Ninevée risquait de ne pas apprécier.
« Ninevée, c'est moi, Egwene. Ne reviens sous aucun prétexte avant d'avoir trouvé la coupe. En tout cas, pas avant que j'ai pu régler un problème avec Nicolas et Areina. Elles savent qu'Elaine et toi vous êtes fait passer pour des sœurs. Je t'en dirai plus quand nous nous reverrons dans la petite tour. Soyez prudentes toutes les deux. Mogadienne s'est échappée. »
Le rêve s'éteignit et la bulle de savon explosa. Malgré la gravité de son message, Egwene aurait bien éclaté de rire si elle avait eu des cordes vocales. Dans un rêve, une voix désincarnée pouvait faire un sacré effet, surtout quand on pouvait redouter que le locuteur se livre aussi à un peu d'espionnage. Et Ninevée n'était pas le genre de femme à oublier, même quand il s'agissait d'un accident. L'infini semé d'étoiles se déplaça de nouveau autour d'Egwene, jusqu'à ce qu'elle repère une autre luciole. Elaine. À Eboudar, les deux femmes ne devaient pas dormir à plus de 10 pas l'une de l'autre. Mais la notion de distance ici n'existait pas, ou signifiait radicalement autre chose. Cette fois, quand Egwene délivra son message, le rêve sembla pulser, puis changer. Alors que son apparence ne s'était pas modifiée, pour la chair d'Amirline, il venait de se transformer. Ces mots avaient-ils propulsé Elaine dans un autre rêve? Quoi qu'il en soit, elle les aurait entendus, et s'en souviendrait à son réveil. Après avoir fait un nouveau pas pour empêcher Nicolas et Areina de nuire, Egwene estima qu'il était temps de s'intéresser à Rand. Hélas, trouver ses rêves serait aussi peu efficace que de nicher ceux d'une Aes Sedai. Comme les sœurs, le jeune homme les protégeait avec un bouclier. Et si la méthode différait nettement, le résultat était le même. La protection d'une sœur ressemblait à une cuirasse de cristal, une sphère lisse tissée avec de l'esprit. Malgré son apparente transparence, cette défense était impossible à traverser, comme si c'était en réalité agi d'acier. Des heures et des heures durant, Egwene avait tenté de voir à travers ce bouclier, et elle en avait été pour ses frais. La protection de Rand était opaque, comme si on sondait une étendue d'eau boueuse. À l'occasion, on percevait des ondulations à l'intérieur, mais sans jamais pouvoir dire ce que c'était. Le décor bougea de nouveau, et Egwene approcha du rêve d'une troisième femme. Cette fois, elle prit 1000 précautions. Il y avait tant de choses entre Amis et elle qu'elle aurait pu se croire en train d'avancer vers un rêve de sa mère. Pour être honnête, elle avait pris Amis comme modèle sur bien des points. Et elle désirait que la matriarche la respecte au moins autant qu'elle voulait être reconnue par le hall. Non, davantage, si elle devait choisir. En tout cas, aucune représentante n'était aussi haut dans son estime qu'Amis. Luttant contre une étrange sorte de timidité, Egwene tenta d'utiliser un ton plus doux, mais sans succès.
Amis, c'est moi, Egwene. Il faut que je te parle.
Nous viendrons,
murmura une voix. Celle d'Amis, bien entendu. Surprise, Egwene eut un mouvement de recul. Puis elle eut envie de se moquer d'elle-même. Au fond, ce n'était pas si mal qu'on lui rappelle que les matriarches étaient beaucoup plus expérimentées qu'elle en matière de rêve. Parfois, il lui arrivait de se demander si elle n'avait pas eu trop de chance, considérant le peu d'efforts qu'elle avait dû fournir pour développer sa puissance dans le pouvoir de l'unique. Mais comme pour compenser, il lui semblait par moments que tout le reste, dans sa vie, revenait à tenter d'escalader une falaise sous un orage. Soudain, elle capta quelque chose dans son champ de vision, à la limite extrême. Une des lucioles se dirigeait vers elle, grossissant à vue d'œil dans l'océan de points lumineux. Un seul songe, propriété d'un unique rêveur, pouvait se comporter ainsi. Paniquée, Egwene s'enfuit, regrettant de ne pas avoir une gorge pour crier, jurer ou même hurler. Histoire d'incendier la petite part d'elle-même, qui ne demandait qu'à rester où elle était, ravie d'attendre. Cette fois, les lucioles ne bougèrent pas. Elles disparurent, tout simplement. Et Egwene se retrouva appuyée à une colonne de pierre rouge, haletant comme si elle venait de courir une demi-lieue. Quand son cœur se fut un peu calmé, elle baissa les yeux sur son corps et ne put s'empêcher de rire malgré son souffle court. Vêtue d'une robe verte en soie brillante brodée de fils d'or sur le corsage et à l'ourlet, elle menaçait de faire craquer le tissu sous la tension d'une poitrine beaucoup plus opulente que dans le monde éveillé, et une large ceinture dorée lui faisait une taille bien plus fine que dans la réalité. Encore que la ceinture n'était peut-être pour rien. En telle Aran Riod, on pouvait avoir l'allure qu'on voulait, et satisfaire tous ses désirs sur le plan de l'apparence. Y compris quand il s'agissait de désirs inconscients, lorsqu'on ne se montrait pas assez prudent. Et à l'évidence, Gawain Trakand avait sur Egwene des effets des plus inconvenants, afin de se laisser entraîner dans le rêve du jeune homme. Entraîner et absorber. Quand une femme capable de marcher dans les rêves aimait quelqu'un à la folie, ou haïssait à mort une personne, en particulier quand ce sentiment était réciproque, elle pouvait être aspirée dans le songe de l'objet de sa flamme ou de sa détestation. Selon les cas, elle attirait le rêve ou était attirée par lui, comme un copeau de fer par un aimant. En ce qui concernait Gawain, il ne s'agissait pas de haine, bien au contraire. Mais elle ne pouvait pas se permettre d'être piégée dans son rêve, telle qu'il la voyait et non telle qu'elle était, jusqu'à ce qu'il se réveille. Alors qu'elle semblait bien plus belle dans les rêves du jeune homme qu'en réalité, il lui apparaissait moins beau qu'il l'était dans le monde éveillé. Quand des sentiments si forts étaient en jeu, la puissance d'un esprit ou sa capacité de concentration ne comptait plus. Une fois dans un songe, on y restait, jusqu'à ce que le rêveur s'éveille ou se focalise sur quelqu'un d'autre. Se souvenant de ce que Gawain rêvait de faire avec elle, et qu'ils avaient fait dans un de ses songes, Egwene sentit le rouge lui monter aux joues.
« Au moins, les représentantes ne peuvent pas me voir, »
dit-elle à haute voix.
« Sinon, inutile d'espérer qu'elles me prennent un jour pour autre chose qu'une gamine. »
Les femmes adultes ne se permettaient pas ainsi au sujet d'un homme. Egwene en était certaine. En tout cas, pas les femmes sensées. Ce dont rêvait Gawain arriverait, mais quand elle le choisirait. Obtenir la permission de sa mère ne serait pas facile. Pourtant, elle finirait par céder, même si elle n'avait jamais simplement aperçu Gawain. Marine Alvéré se fia au jugement de sa fille. À ce propos, il était temps que cette dernière fasse preuve d'un peu de bon sens et cesse de penser à des fantaisies romantiques vraiment pas d'actualité. Quand elle regarda autour d'elle, Egwene faillit regretter de ne pas avoir continué à penser à Gawain. Un grand cercle de colonnes, sur plusieurs rangées, soutenait un dôme impressionnant. Aucune des lampes dorées accrochées à des chaînes en or n'était allumée, pourtant, une étrange lumière jaillie de nulle part permettait d'y voir distinctement. Le cœur de la pierre, au centre de la grande forteresse appelée la pierre de Théar. Ou plutôt de son reflet dans Tel Aran Riod. Une image aussi réelle que son modèle, sous bien des aspects. C'était là qu'Egwene rencontrait les matriarches. À leur demande. Un choix étrange pour des Aiel, semblait-il. Egwene se serait attendue à Ruidéan, maintenant que c'était une ville ouverte, ou à une autre région du désert des Aiel. Ou encore à l'endroit où se trouvaient les matriarches, tout simplement. À l'exception des sanctuaires des Ogiers, tous les lieux du monde avaient un reflet en Telaran Riod. En fait, même les sanctuaires en avaient un, mais on ne pouvait pas y entrer. Un peu comme dans Ruidéan, jusqu'à ces derniers temps. Le camp des Aes Sedai était bien entendu hors de question. Désormais, plusieurs sœurs avaient accès à des terres angréales, leur permettant d'entrer dans le monde des rêves. Comme elles ne savaient pas vraiment ce qu'elles faisaient, elles commençaient souvent par la version onirique du camp, le point de départ d'un voyage normal en quelque sorte. Comme les angréales et le saangréal, les terres angréales, selon les lois de la tour, étaient la propriété de la tour blanche, et peu importait qui se retrouvait en leur possession à un moment donné. Cela dit, la tour insistait rarement pour les récupérer, surtout lorsqu'ils se trouvaient dans des endroits tels que la grande salle du trésor de la pierre de Théar. Tôt ou tard, ces artefacts finiraient entre les mains des Aes Sedai, et la tour avait toujours su se montrer patiente quand il le fallait. Mais ceux que les sœurs détenaient déjà étaient attribués au hall, ou à des représentantes individuelles. En réalité, prêtés plutôt qu'attribués, car on ne donnait presque jamais de tels trésors. Elaine ayant appris à reproduire des terres angréales liées aux rêves, elle et Ninevé avaient pu en emporter un chacune. Les autres étaient tous entre les mains du hall, avec d'autres artefacts fabriqués par la fille héritière. En clair, ça signifiait que Sheryam et son petit cercle pouvaient les utiliser à volonté. Idem pour Romanda et Lelaine. Dans ce cas, cependant, il semblait plus probable que les deux rivales préfèrent envoyer des sœurs à elles plutôt que de s'aventurer en personne en Telaran Riod. Jusqu'à très récemment, aucune Aes Sedai n'avait marché dans les rêves depuis des siècles. Cette reprise ne se passait pas toujours très bien. Essentiellement parce que les sœurs croyaient dur comme fer qu'elles n'avaient de leçons à recevoir de personne. Même dans ces conditions, Egwene ne voulait surtout pas qu'une de ses femmes espionne sa petite réunion à venir. Comme si penser à ça avait aiguisé ses sens, elle prit conscience que des yeux invisibles l'observaient. Dans le monde des rêves, on avait toujours cette impression, et les matriarches elles-mêmes n'auraient su dire pourquoi. Mais ça n'empêchait pas que de véritables espions puissent être là, et Egwene ne pensait pas précisément à des séides de Romanda ou de Lelaine. Une main sur l'imposante colonne, elle en fit le tour, en sondant la forêt de pierres rouges qui l'entourait et s'enfonçait dans les ombres. Ici, la lumière n'était pas réelle. Une personne cachée derrière une autre colonne aurait eu l'impression d'être éclairée, tandis que l'obscurité lui aurait dissimulé Egwene. Un peu partout, des silhouettes apparaissaient, masculines ou féminines, pour se volatiliser en moins de quelques secondes. Egwene n'accordait aucun intérêt à ces rêveurs normaux qui s'égaraient dans le monde des rêves. Assez pour être aperçu, mais pas pour s'exposer à tous les dangers qui y rôdaient. L'Aja Noir détenait lui aussi des terres angréales donnant accès à Telaran Riod. Volé à la Tour Blanche, bien entendu. Pire encore, Mogadienne connaissait parfaitement le monde des rêves. Aussi bien que les matriarches, en tout cas, et peut-être mieux. Ici, elle pouvait contrôler sans peine le décor et les gens. Un moment, Egwene regretta de ne pas avoir épié les rêves de Mogadienne, lorsque celle-ci était prisonnière. Une seule fois aurait suffi pour qu'elle soit capable de les reconnaître sans peine. Mais ça ne l'aurait pas aidé à déterminer où était la rejetée à présent. Et il y aurait eu le risque d'être attiré dans un songe. Egwene détestait Mogadienne, qui le lui rendait bien, ça coulait de source. Ce qui arrivait dans un rêve n'était pas réel, pas même comme en Telaran Riod, mais on en gardait un souvenir très précis. Une nuit entre les mains de Mogadienne, un cauchemar qu'Egwene aurait sûrement revécu chaque nuit jusqu'à la fin de ses jours, et peut-être même en étant éveillée. Egwene fit de nouveau le tour de la colonne. Que venait-elle d'apercevoir? Une très belle femme, le teint mat, portant une coiffe ornée de perles et une robe à ornements de dentelle. Une apparition éphémère. Une théarienne en train de rêver. Une haute dame, ou quelqu'un qui se voyait ainsi. Éveillée, il pouvait s'agir d'une fermière ou d'une négociante des plus ordinaires. En fait, Egwene aurait mieux fait d'espionner Loghain plutôt que Mogadienne. Elle n'aurait toujours pas su où était cet homme, mais elle aurait peut-être au moins eu une idée de ses projets. Cela dit, être attirée dans un de ses rêves n'aurait rien eu non plus d'agréable. Loghain abominait toutes les Aes Sedai. Organiser son évasion avait été une de ces choses qu'il faut faire, ni plus ni moins. Et avec un peu de chance, le prix ne serait pas très élevé. Qu'importait Loghain? Mogadienne était le vrai danger. Quelqu'un qui pouvait l'attraquer partout, et en particulier ici. S'avisant qu'elle se déplaçait avec la grâce d'un éléphant, Egwene eut un grognement vexé. Sa superbe robe était devenue une armure complète comme en portaient les cavaliers de Gareth Bryne. Un haume reposait sur sa tête, sa crête en forme de flamme de Tarvalon, détermina-t-elle au toucher. Un incident agaçant. Elle aurait dû être bien au-delà de Paris faute de contrôle. Tout ça n'étant qu'une question mentale, et Gwen remit la tenue qu'elle portait lors de sa précédente rencontre avec les matriarches. Une large jupe de laine et un chemisier ample en algode, puis un châle d'un vert très sombre et un foulard pour tenir ses cheveux. Bien entendu, elle n'imita pas tout un cacagris de colliers et de bracelets qu'arboraient les aïeuls. Sinon, elle se serait moquée d'elle. Une femme amassait sa collection au fil des ans, pas durant un simple rêve.
« Logan est en route pour la tour noire, »
dit Egwene à voix haute. Elle espérait en tout cas. Ainsi, il y aurait quelqu'un pour garder un œil sur lui. Et s'il était capturé et de nouveau apaisé, Rand ne pourrait accuser aucune des sœurs de Salidar.
« Sinon, Mogadien n'a aucun moyen de savoir où je suis. »
Ça, c'était difficile à dire avec toute la conviction requise.
« Pourquoi devrais-tu craindre ceux dont l'âme est faite de ténèbres ?»
demanda une voix derrière la jeune femme. Egwene crut qu'elle allait bondir de surprise. Étant telle à Ranriod, elle reprit son sang-froid, alors qu'elle l'évitait à quatre bons pieds du sol.
« Oui, oui, je suis bien au-delà de ces fautes de débutante, »
pensa-t-elle amèrement. Si ça continuait, elle finirait par faire des bons chaque fois que Chessa lui dirait bonjour le matin. Espérant ne pas trop avoir rougi, elle se laissa retomber sur le sol. Avec un peu de chance, elle aurait préservé un peu de sa dignité. Sans blague? Le visage de Beyr étant encore plus parcheminé à cause du grand sourire qui lui fondait la bouche, ça paraissait mal parti. Contrairement aux deux femmes qui l'accompagnaient, Beyr était incapable de canaliser. Mais ça n'avait rien à voir avec le don de marcher dans les rêves. Pour ça, elle était aussi douée que ses compagnes. Et même plus dans certains domaines. Amy souriait aussi. Mais Lane, elle, éclata de rire.
« Je n'ai jamais vu quelqu'un !»
parvint-elle à dire.
« On aurait cru un lapin !»
Laiel fit un petit saut et s'éleva de trois bons pieds.
« J'ai récemment causé quelques souffrances à Mogadien, »
dit Egwene, très fière de son sang-froid. Elle aimait beaucoup Mélaine, qui s'était considérablement adoucie depuis qu'elle portait des jumelles dans son ventre. Mais pour l'heure, elle l'aurait volontiers étranglée.
« Avec des amis à moi, nous nous en sommes prises à sa fierté pour commencer. Je crois qu'elle adorait pouvoir me rendre l'appareil. »
Cédant à une impulsion, Egwene changea de nouveau de tenue pour adopter le type de robe d'équitation qu'elle portait ces derniers temps. Et sa bague au serpent se matérialisa à son doigt. Même si elle ne pouvait pas tout leur dire, ces trois femmes étaient des amies, et elle méritait de savoir tout ce qui était communicable.
« L'orgueil blessé cicatrise moins vite que la chair, »
dit Beyr d'une voix haut perchée, mais qui ne tremblait pas.
« Et on garde plus longtemps le souvenir de ces plaies-là.
Raconte-nous tout, »
lança Mélaine.
« Comment l'avez-vous humiliée ?»
Beyr semblait tout aussi enthousiaste. En un pays cruel, on apprenait à rire de la cruauté, où on passait sa vie à pleurer. Dans la tierce terre, les Aiel avaient très tôt appris à rire. De plus, pour eux, humilier un ennemi était considéré comme un art. Amy s'étudia pendant un moment la nouvelle tenue d'Egwen, puis elle lâcha.
« Ce sera pour plus tard, je crois. Egwen, tu veux nous parler ?»
La matriarche désigna l'endroit où ses compagnes et elle préféraient dialoguer. Au cœur de la vaste salle, juste sous le dôme. Pour Egwen, les raisons de ce choix restaient mystérieuses. Quoi qu'il en soit, les trois femmes s'assirent en tailleur, leurs jupes en corolle autour d'elles, non loin de ce qui semblait être une épée de cristal enfoncée dans le sol. Cette arme n'étant pas mentionnée dans les prophéties de leur peuple, elle ne lui accordait pas plus d'importance qu'aux silhouettes qui apparaissaient et disparaissaient entre les colonnes. Malgré son apparence, la légendaire Kalandor aurait pu servir d'épée. Mais en réalité, c'était un Sang Gréal masculin, un des plus puissants fabriqués durant l'âge des légendes. Penser à un Sang Gréal masculin fit frissonner Egwen. Quand Rand était encore le seul homme capable de canaliser, ça l'impressionnait moins. Enfin, le seul. Il y avait les rejetés, bien sûr, mais... Eh bien, ces Achaman étaient inquiétants. À l'aide de Kalandor, un homme pouvait puiser assez de pouvoir pour raser une ville en un clin d'œil et tout dévaster à des lieux à la ronde. Egwene fit un grand détour pour ne pas frôler l'épée. Comme l'annonçaient les prophéties, Rand avait réussi à s'emparer de Kalandor dans le cœur de la pierre, puis l'y avait laissé pour des raisons connues de lui seul. Laissé, mais pas abandonné, car l'arme était entourée de protections tissées avec du Saïdine. Bien entendu, ces défenses avaient leur reflet dans le monde des rêves, et si quelqu'un s'aventurait à tisser quelque chose d'agressif près de l'arme, ce serait probablement la dernière erreur de sa vie. En Tel Aranriod, certaines choses étaient redoutablement réelles. En essayant d'oublier l'épée qui n'en est pas une, Egwene prit place à côté des trois matriarches. Nouant leur châle autour de leur taille, celles-ci entr'ouvrirent leur chemisier. C'était ainsi que les Aiel s'installaient sous leur tente, pour une conversation amicale, alors que le soleil du désert martelait le paysage environnant. La jeune femme ne s'assit pas. Si ça lui donnait l'allure d'une accusée à son jugement ou d'une suppliante, eh bien tant pis. En un sens, au fond de son cœur, elle était les deux.
Je ne vous ai pas dit pourquoi on m'a ordonné de partir loin de vous. Et vous ne m'avez pas posé la question. Tu nous le diras quand tu seras prête,
fit Amys compréhensive. Malgré ses cheveux enneigés semblables à ceux de Beyr, elle paraissait avoir plutôt l'âge de Mélaine. Sa crinière avait, paraît-il, commencé à blanchir alors qu'elle était à peine plus âgée qu'Egwen. Et c'était pourtant elle qui dirigeait le trio. Pour la première fois, Egwen se demanda quel âge elle pouvait bien avoir. Pas le genre de question qu'on posait à une matriarche ou à une Aes Sedai.
Quand je vous ai quitté, j'étais inacceptée. Je suppose que vous connaissez la hiérarchie de la Tour Blanche.
Beyr acquiesça, puis elle fit la moue. Elle connaissait, mais elle ne comprenait pas. Aucune matriarche ne saisissait. Pour les Aiel, c'était comme si une tribu ou un ordre de guerriers s'était divisé en interne, histoire de s'affaiblir. Du coup, ça devenait aussi un indice sur les Aes Sedai, peut-être beaucoup moins forte que ce qu'on aurait pu croire.
Les sœurs qui se sont révoltées contre Elaïda ont fait de moi leur chair d'Amyrlin,
continua Egwen, surprise que sa voix ne tremble pas.
Quand Elaïda aura été renversée, je prendrai sa place à la Tour Blanche.
D'une pensée, elle ajouta les tolleries à sa tenue et attendit. Naguère, elle avait menti au matriarche, une sérieuse entorse au Gieto, et elle redoutait leur réaction face à ce qu'elle leur avait dissimulé. Si elle la croyait, car pour l'instant, elle se contentait de la regarder.
Les enfants font tous une chose,
finit par dire Mélaine. Sa grossesse ne se voyait pas encore, mais une sorte de lumière intérieure la rendait encore plus belle que d'habitude et lui conférait une sérénité à toute épreuve.
Ils veulent tous danser avec les lances et être le chef de tribu. Tôt ou tard, ils découvrent que le chef manie rarement les lances lui-même. Alors, il fabrique une sorte de statue, et il la place au sommet d'une butte.
Sur un côté, le sol cessa d'être un dallage, pour devenir un monticule de roche ocre. Dessus trônait l'effigie d'un homme, faite de branchages et de lambeaux de vêtements.
Voilà le chef de tribu qui les dirige du haut d'une colline, tandis qu'il danse avec les lances dans la plaine. En réalité, les enfants courent dans tous les sens, et leur chef n'est qu'un épouvantail.
Une brise souleva les lambeaux de tissu, dévoilant les entrailles creuses de l'épouvantail. Puis l'image disparut. Et Gwen prit une grande inspiration. Bien sûr, elle avait expié son mensonge, selon les exigences du Gieto, et de son propre choix. Et cela aurait dû effacer sa faute. Mais il n'en était rien. Cela dit, les matriarches avaient pris la mesure de la situation comme s'ils avaient été à Salidar depuis le début de l'affaire. Pour ne pas voir l'humiliation des Gwen, Beyr regardait le sol. Le menton reposant sur une main, Amys braqua sur la jeune femme un regard qui lui transperça le cœur.
Certaines sœurs me voient ainsi,
souffla Egwen. Au prix d'un gros effort, elle avoua la vérité.
Presque toutes, en réalité. Pour l'instant. Quand nous aurons remporté notre bataille, elles sauront qui les dirige et m'obéiront au doigt et à l'œil.
Reviens avec nous,
dit Beyr.
Tu as bien trop d'honneur pour ces femmes. Soriléa a déjà sélectionné une dizaine de jeunes guerriers que tu pourrais étudier de plus près dans une tente bain de vapeur. Elle adorerait te voir tresser une couronne nuptiale. J'espère qu'elle assistera à mon mariage, Beyr.
Avec Gawain, bien entendu. En interprétant ses propres rêves, Egwen avait acquis la certitude qu'elle lierait le jeune homme à elle. Quant au mariage, seul l'espoir et la douce folie de l'amour laissaient penser qu'il aurait lieu un jour.
Je voudrais que vous y soyez toutes, mais en matière de mari, j'ai déjà fait mon choix.
Beyr aurait sans doute insisté, et Mélaine aussi, mais Amys leva une main, leur imposant le silence. À leur grande contrariété.
Sa décision est très conforme, Oji,
dit Amys.
Elle pliera ses ennemis à sa volonté, au lieu de fuir devant elle. Je te souhaite bonne chance dans cette danse, Egwen Alvere.
Ancienne promise de la lance, Amys en avait gardé bien des caractéristiques, dont la façon de penser.
Assieds-toi,
dit-elle.
Son honneur la regarde,
dit Beyr.
Mais j'ai une autre question.
Ses yeux bleus se posèrent sur Egwen, aussi perçants que ceux d'Amys dans ses meilleurs moments.
Amèneras-tu ces Aes Sedai à s'agenouiller devant le Karakarn?
Surprise, Egwen faillit s'étaler sur le sol plutôt que s'asseoir. Cela dit, elle répondit sans hésiter un instant.
Je ne peux pas faire ça, Beyr. Et si c'était dans mes moyens, je ne le ferais pas. Notre loyauté va à la Tour Blanche, à l'ensemble des Aes Sedai. Et c'est plus important que notre patrie.
C'était la stricte vérité, enfin, en théorie. Mais comment la faire concorder, dans l'esprit des trois matriarches, avec l'attitude de leurs protégés et des autres sœurs renégates.
Les Aes Sedai ne jurent même pas allégeance à la chair d'Amyrlin. Alors à un homme, ce serait comme si l'une d'entre vous se prosternait devant un chef de tribu.
Et Gwen offrit à ses propos une petite illustration, comme Mélaine l'avait fait auparavant. Quand on savait s'y prendre, Telaran Riod était malléable à l'infini. Un peu au-delà de Kalendor, trois matriarches s'agenouillèrent devant un chef de tribu. L'homme ressemblait beaucoup à Ruark, et les trois femmes n'étaient pas sans rapport avec Beyr, Amys et Mélaine. L'image s'effaça très vite, mais le coup avait fait mouche. L'air offensé de Beyr l'attestait.
« Ne nous compare pas à ces femmes !»
dit Mélaine, d'un ton coupant digne de son ancienne dureté. Et Gwen ne répondit pas. Les matriarches semblaient mépriser toutes les Aes Sedai, à part elle, ou peut-être plutôt les tenir pour quantité négligeable. Avant qu'Egwen soit sommée par le hall de rentrer à Salidar, la jeune femme et les trois matriarches avaient souvent rencontré Sheriam et quelques-unes de ses fidèles. Ces rendez-vous avaient cessé, parce que les matriarches s'étaient montrés incapables de dissimuler leur mépris pour les sœurs. En Telaran Riod, une confrontation avec des femmes plus familières des lieux et plus expérimentées pouvait se révéler très humiliante. Même avec Egwen, les Aiel conservaient désormais une certaine distance. Par exemple, elles refusaient d'aborder certains points sensibles, comme ce qu'elles savaient des plans de Rand. Naguère, elle était l'une de ces femmes, leur élève dans l'art de marcher dans les rêves. Puis elle était devenue une Aes Sedai à leurs yeux, et ce, avant même qu'elle leur révèle toute la vérité sur son départ.
« Egwene Alvere fera ce qu'elle doit faire, »
dit Amys. Mélaine la dévisagea longuement et ne dit rien. Apparemment, la position d'Amys s'était encore renforcée. La seule autre matriarche dotée d'une autorité comparable sur ses collègues était Soriléa. Fidèle à la tradition, Beyr imagina devant elle un plateau d'argent torsadé typique d'un pays, sur lequel reposait une bouilloire ornée de lions caractéristiques d'un autre. Puis elle fit apparaître de délicates tasses vertes en porcelaine du peuple de la mer. Bien entendu, l'infusion parut tout ce qu'il y avait de réel. Malgré un goût de baie rouge qu'elle ne parvint pas à identifier, le breuvage se révéla bien trop amer pour Egwene. Imaginant qu'il était additionné de miel, elle le goûta de nouveau, et le trouva trop sucré. Un peu moins de miel, et le tour fut joué. Le genre de choses qu'on ne pouvait pas faire avec le pouvoir. Pour tisser des flux de Saïdar assez fins pour retirer du miel d'une tasse d'infusion, il aurait fallu des compétences dépassant les rêves les plus fous. Sondant sa tasse, Egwene passa un long moment à penser au mystère du miel, d'une infusion et des filaments de Saïdar. Mais cette méditation, pour profonde qu'elle fût, n'était pas la cause de son silence. Comme Elaïda, Romanda, Lélaine et quasiment toutes les autres sœurs, les matriarches entendaient guider Rand. Bien sûr, elles voulaient orienter le Karakarn sur le chemin qui conviendrait le mieux aux Aiel. Mais après tout, les sœurs désiraient inciter le dragon réincarné à faire ce qui était préférable pour le monde, selon elles. Et Gwen ne s'épargna pas elle-même. Aider Rand, l'empêcher de se fâcher avec les Aes Sedai au-delà de toute réconciliation, n'était-ce pas le manipuler aussi?
Sauf que moi, j'ai raison. Ce que je fais est autant pour son bien que celui de quiconque d'autre. Les sœurs et les matriarches se soucient comme d'une guigne de son bien-être.
Mais se rappeler que ces femmes n'étaient pas seulement des amies à elle et des fidèles du Karakarn ne pouvait pas lui faire de mal. Rien ni personne n'était jamais simple. Elle payait chaque jour pour l'apprendre.
Je doute que tu aies seulement voulu nous apprendre ta nomination au poste de Cher d'Amirline. Une femme de grand pouvoir dans les terres mouillées.
Amys but une gorgée d'infusion et reprit.
Qu'est-ce qui te tracasse, Egwene Alvere? Toujours la même chose,
répondit Egwene. Elle sourit, histoire d'alléger l'atmosphère.
Parfois je me demande si Rand ne me vaudra pas des cheveux gris avant l'heure. Sans les hommes, aucune femme n'aurait de cheveux gris.
Normalement, ces mots auraient dû être une plaisanterie de Mélaine, et Beyr aurait dû relancer le processus en ironisant sur la grande connaissance des mâles que sa compagne avait tirés de quelques petits mois de mariage. Mais il n'y eut rien de tout ça. Les trois Aiel se contentèrent de regarder Egwene et d'attendre la suite. Elles entendaient être sérieuses, donc. De fait, Rand n'était pas à prendre à la légère. Mais Egwene aurait aimé être sûre que ses interlocutrices voyaient les choses comme elle, au moins en partie. Sa tasse en équilibre sur le bout des doigts, elle raconta tout au matriarche. Sur Rand, en tout cas, et sur ses angoisses, depuis qu'il n'y avait plus de nouvelles de Kemlyn.
Je ne sais pas ce qu'il a fait, ou ce que Mehrana a fait. Tout le monde me dit que Mehrana est très expérimentée, mais elle n'a jamais dû traiter avec quelqu'un comme Rand. Dès qu'il est question d'Aes Sedai, il... Eh bien, il devient un autre homme, encore plus impulsif et dangereux. Je sais que je pourrais faire mieux que Mehrana, mais... Tu pourrais revenir parmi nous,
suggéra de nouveau Beyr.
Non, je suis plus utile où je suis. Et avec le titre que je porte. De plus, même une chère d'Amérine doit respecter certaines règles.
Et Gwen fit la moue, une réalité qu'elle n'aimait pas reconnaître, surtout en face de ses femmes.
Sans l'autorisation du hall, je ne peux même pas aller voir Rand. Je suis une Aes Sedai et je dois obéir à nos lois.
Une déclaration plus agressive qu'Egwene n'aurait voulu. La loi qui lui liait les mains était stupide, mais elle n'avait pas encore trouvé un moyen de la contourner. De toute façon, ses interlocutrices ne la croyaient probablement pas. Même un chef de tribu n'avait aucun droit de dire à une matriarche où elle pouvait aller ou non. Les trois aguelles se consultèrent du regard. Puis Amis posa sa tasse et prit la parole.
« Mérana Ambray et d'autres Aes Sedai ont rejoint le Karakarn dans la grande cité des tueurs d'arbres. Tu n'as pas à avoir peur qu'ils commettent un impair à cause de cette femme ou d'une des sœurs qui l'accompagne. Nous nous assurerons qu'il n'y ait aucun problème entre Randall Thor et les Aes Sedai. Voilà qui ne ressemble pas beaucoup à Rand. »
fit Egwen, plus que perplexe. Donc, Shiryam avait eu raison au sujet de Mérana. Mais pourquoi ce silence ? Beyr éclata de rire.
La plupart des parents ont plus de problèmes avec leurs enfants que le Karakarn avec les femmes qui entourent Mérana Ombray. Tant que ce n'est pas lui l'enfant.
Plaisanta Egwen, ravi que quelqu'un détende un peu l'atmosphère. Avec ce que ces aguelles pensaient des Aes Sedai, la fumée leur serait déjà sortie des naseaux, si elles avaient seulement soupçonné que des sœurs puissent avoir gagné de l'influence sur Rand. D'un autre côté, il fallait que Mérana en acquiert un minimum. Sinon, elle pouvait tout aussi bien repartir sur le champ.
Mérana devrait nous avoir envoyé un rapport. Et je ne comprends pas pourquoi elle ne l'a pas fait. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas de...
Egwen ne sut pas comment terminer sa phrase. Rand n'aurait eu aucun moyen d'empêcher Mérana d'envoyer un pigeon voyageur.
Elle a peut-être expédié un cavalier.
Avança Amis avec une grimace. Comme tous les Aiel, elle abominait l'équitation.
Elle n'avait avec elle aucun des oiseaux qu'utilisent les gens des Terres Mouillées. C'était une bêtise de sa part.
Un euphémisme, ça. Mérana protégeait sûrement ses rêves, donc il n'y avait aucun espoir de la contacter par ce biais. À supposer qu'il soit localisable. Par la lumière, ça devenait agaçant.
Amis, promets-moi de ne pas essayer d'empêcher Rand de parler avec Mérana, et de ne pas l'énerver au point qu'elle fasse quelque chose de stupide.
Les matriarches étaient tout à fait capables de telles manœuvres. Et quand il s'agissait de provoquer les Aes Sedai, on n'en trouvait pas plus doué qu'elle.
Mérana a pour mission de convaincre Rand que nous ne lui voulons pas de mal. Je suis sûr qu'Elaïda garde une mauvaise surprise cachée dans sa manche. Mais ce n'est pas notre cas.
Et si quelqu'un dans son camp avait des projets différents, Egwen était prête à tout pour les saboter.
Promets-moi, Amis.
Les Aiel se concertèrent du regard. L'idée de laisser une sœur approcher de Rand ne pouvait pas leur plaire. Du coup, l'une d'elles s'arrangeait toujours pour être là quand Rand recevrait Mérana. Mais c'était acceptable, si les ingérences n'allaient pas plus loin que ça.
Je te le promets, Egwen Alveré,
finit par dire Amis d'un ton glacial. Les matriarches étaient sûrement offusqués qu'on leur ait demandé un serment. Pour Egwen, c'était un grand soulagement. Rand et Mérana n'en étaient pas à se sauter à la gorge, et l'émissaire aurait une chance d'accomplir sa mission.
Amis, je savais que tu me dirais la vérité toute crue. Sachez toutes les trois que j'étais ravi de l'entendre. Si les choses avaient mal tourné entre Mérana et Rand, merci à vous toutes.
Stupéfaite, Egwen sursauta. Un bref instant, Amis s'était revêtue d'un cadinsor. Le langage des promises, peut-être. Occupés à siroter leur infusion, Beyr et Melaine ne semblaient pas s'en être aperçus. Amis avait dû souhaiter être autre part, loin de la confusion que Rand apportait dans la vie de tout un chacun. Pour une matriarche capable de marcher dans les rêves, il aurait été embarrassant, voire humiliant, de perdre son contrôle en Telaran Riod, même un bref instant. Pour un Aiel, la honte était plus douloureuse qu'une plaie. Mais encore fallait-il qu'il y ait des témoins. S'il n'y en avait pas, ou s'il faisait mine de n'avoir rien vu, on pouvait considérer que rien ne s'était passé. Un peuple étrange. Mais Egwen n'aurait voulu pour rien au monde humilier Amis. Elle fit donc comme si elle n'avait rien vu.
Je dois vous demander une faveur. Très importante. Ne dites rien à Rand ou à quiconque d'autre à mon sujet. Je veux parler de ça.
Egwen bandit son étole sous le regard impassible des matriarches.
Je ne vous demande pas de mentir.
Selon le Jieto, vouloir que quelqu'un mente était à peine moins grave que de mentir soi-même.
Évitez simplement le sujet. Rand a déjà envoyé quelqu'un à mon secours. Il sera furieux d'apprendre que j'expédiais Matt à Eboudar, avec Nineveh et Elaine. Avais-je seulement le choix? Je n'ai pas besoin qu'on vienne à ma rescousse, et je ne le veux pas. Mais Rand croit toujours en savoir plus long que les autres. Il serait capable de venir en personne.
Egwen voyait la scène de là. Rand déboulant seul dans le camp, fou de rage, au milieu de 300 Aes Sedai. Ou avec des achamans pour l'accompagner, tant qu'à faire. Dans tous les cas, ce serait un désastre.
Ce serait... malheureux,
souffla Melaine, pourtant peu adepte des euphémismes.
Le Karakarn était têtu,
murmura Beyr.
Autant que le pire mal que j'ai connu. Et que quelques femmes, je dois avouer. Nous garderons tes confidences pour nous, Egwen Alveré,
déclara Amis. Egwen s'étonna d'avoir obtenu si facilement gain de cause. mais ce n'était pas si surprenant que ça. Pour les matriarches, le Caracal était un chef presque comme les autres, et elle n'avait jamais hésité à ne pas révéler au chef ce qu'il n'était pas habilité à savoir. Après ça, il n'y eut plus grand-chose à dire, même si la conversation se prolongea autour d'autres tasses d'infusion. Et Gwen mourait d'envie de recevoir une leçon de technique onirique, mais elle ne pouvait pas demander ça en présence d'Amis. Car elle serait partie, et sa compagnie était plus précieuse que n'importe quelle leçon. Au sujet de Rand, les matriarches ne lâchèrent rien. Sauf quand Mélaine, en soupirant, déclara qu'il devrait en finir avec Sevana et les Shaido. Ses compagnes la foudroyant du regard, elle rougit et se tut. Sevana était une matriarche, comme Egwene avait amèrement payé pour le savoir. Même le Karakarn n'aurait pas été autorisé à se mêler d'une affaire concernant une matriarche Shaido. De son côté, que la conversation ait commencé par la partie la plus humiliante de son statut actuel ne diminuerait pas la honte qu'elle éprouvait à être un vulgaire jouet. Décidément, en présence des Aiel, elle avait du mal à ne pas se comporter et penser comme une Aiel. De toute façon, même sans ça, elle se serait sentie humiliée. En outre, les conseils que les matriarches pouvaient lui donner désormais, car il n'en était pas toujours allé de même, sur la façon d'agir avec les Aes Sedai, étaient d'un genre qu'Elaïda elle-même aurait hésité à mettre en application. Car un soulèvement de sœurs, si incongrue l'idée puisse-t-elle paraître, en aurait sans doute résulté. Plus important, les matriarches pensaient déjà assez de mal des sœurs sans qu'on vienne apporter de l'eau à leur moulin. Un jour, Egwene comptait bien créer un lien entre les matriarches et la Tour Blanche. Mais pour ça, il ne fallait surtout pas jeter de l'huile sur le feu en ce moment. Et bien entendu, il fallait trouver une façon de procéder, ce qu'elle était très loin d'avoir fait.
« Je dois partir, »
dit-elle en se levant. Son corps dormait sous sa tente, certes, mais le sommeil n'était jamais très reposant quand on se trouvait dans le monde des rêves. Les trois matriarches se levèrent aussi.
« J'espère que vous serez toutes très prudentes. Mogadien me déteste, et elle tentera certainement de nuire à mes proches. Sur Tel Aran Riod, elle sait beaucoup de choses. Au moins autant que l'Anfear en savait. »
Le mieux qu'Egwene pouvait faire, pour avertir subtilement les Aiel, que Mogadien risquait d'en savoir plus long qu'elle. Une annonce plus directe aurait pu blesser ces femmes dans leur orgueil. Mais elles semblèrent capter le message, et ne pas en tenir rigueur à la messagère.
« Si ce dont l'âme est faite de ténèbres voulait nous nuire, » dit Mélaine, « je pense que ce serait déjà fait. Peut-être pensent-ils que nous ne sommes pas dangereux pour eux. Nous avons observé celles qui sont susceptibles de marcher dans les rêves, »
dit Beyr.
« Et les hommes qui peuvent aussi en être capables. »
L'Aiel secoua la tête, l'air incrédule. Quoi qu'elle sache au sujet des rejetés, elle tenait les hommes aptes à marcher dans les rêves pour des curiosités, du genre serpent à pattes.
« Ces gens nous évitent. Tous. Je crois que nous sommes aussi forts qu'eux, »
ajouta Amis. Dans le pouvoir de l'unique, Mélaine et Amis n'étaient pas meilleurs que Théodrine et Faolaine. Ce n'était pas rien, les plaçant devant la plupart des sœurs, mais ça restait loin du niveau d'un rejeté. Dans le monde des rêves, cependant, l'expérience et la connaissance étaient très souvent des armes aussi puissantes que le Saïdar, et parfois plus. En Tel Aran Riod, Beyr, qui ne canalisait pas le pouvoir, était l'égal de n'importe quelle sœur.
Mais nous serons prudentes. Ce sont les ennemis qu'on sous-estime qui finissent par nous tuer.
Et Gwen prit la main d'Amis et de Mélaine, regrettant de ne pas pouvoir tenir celle de Beyr en même temps. Pour compenser, elle sourit à Laiel.
Je ne pourrai jamais dire ce que votre amitié représente pour moi, et combien vous comptez à mes yeux.
Malgré toutes les complications, c'était la stricte vérité.
Chaque fois que je cligne des yeux, le monde semble en profiter pour changer. Vous figurez parmi les rares points fixes de ma vie. Le monde change,
soupira Amis.
Les montagnes elles-mêmes sont érodées par les intempéries, et nul ne peut jamais escalader deux fois le même versant. Et Gwen a le verré. J'espère que tu nous tiendras à jamais pour tes amis. Puisses-tu toujours trouver de l'eau et de l'ombre.
Sur ces mots, les trois femmes disparurent, en route pour leur corps de chair et de sang. Un moment, Egwene resta seule face à Kalandor, mais sans vraiment la voir. Puis elle haussa les épaules, agacée. Elle s'était laissée aller à penser à l'océan d'étoiles. Si elle attendait assez longtemps, le rêve de Gawain la trouverait et l'enlacerait, les bras du jeune homme suivant très vite après. Une façon agréable de passer le reste de la nuit, et une perte de temps enfantine. Inflexible, la jeune femme se força à retourner dans son corps endormi, mais pas pour y connaître un sommeil ordinaire. Ce temps-là était révolu. Un coin de son esprit demeurait éveillé, cataloguant ses rêves pour isoler ceux qui prédisaient le futur, ou du moins donnait une idée du cours qu'il prendrait. Désormais, elle pouvait définir ainsi son don, même si le seul songe qu'elle avait réussi à interpréter jusque-là était celui annonçant que Gawain deviendrait son champion. Les Aes Sedai appelaient ça le don du rêve, et les femmes qui le possédaient avaient pour nom les rêveuses. Avant Egwene, les dernières avaient disparu des siècles plus tôt. Et bizarrement, ce don n'avait pas plus de lien avec le pouvoir de l'unique que l'aptitude à marcher dans les rêves. Ayant pensé à lui juste avant de réintégrer son corps, il ne lui parut pas étonnant que Gawain soit le sujet de son premier rêve. Elle se tenait dans une grande chambre obscure, où tout était indistinct. À part le jeune homme qui avançait lentement vers elle, Gawain, un grand et bel homme, avait-elle vraiment pensé un jour que son demi-frère Galad était plus beau que lui? Aux cheveux blonds et aux yeux d'un merveilleux bleu foncé. Même s'il était encore loin, il la voyait, et son regard était rivé sur elle, comme celui d'un archer sur sa cible. De faibles crissements attirèrent soudain l'attention d'Egwen. Des craquements étranges comme, baissant les yeux, elle eut du mal à s'empêcher de crier. Pieds nus, Gawain avançait sur un tapis d'éclats de verre, qui se brisait à chacun de ses pas prudents. Même dans la pénombre, Egwen distingua la piste de sang qu'il laissait derrière lui. Elle leva une main, voulut crier au jeune homme de s'arrêter, tenta de courir vers lui. Mais en un éclair, elle se retrouva dans un autre endroit. À la manière typique des rêves, elle flottait au-dessus d'une longue route droite, qui traversait une plaine luxuriante. Sur la route, un homme chevauchait un étalon noir. Bien entendu, c'était encore Gawain. Soudain, Egwen se retrouva sur la route, devant le cavalier, qui tira sur les rênes de sa monture. Pas parce qu'il voyait la jeune femme, cette fois, mais parce que la route, droite jusque-là, bifurquait à l'endroit exact où se tenait Egwen, se dirigeant vers des collines bien trop hautes pour qu'on voie ce qu'il y avait derrière. Pourtant, la jeune femme le savait. Au bout d'une des deux branches de la fourche, une mort violente attendait Gawain. S'il s'engageait sur l'autre, il aurait une longue et heureuse vie et mourrait dans son lit. Sur un des chemins, il épouserait Egwen. Sur l'autre, non. La jeune femme savait tout, sauf quel embranchement était le bon. Gawain vit soudain sa bien-aimée, en tout cas, il en donna l'impression. Souriant, il dirigea sa monture vers un des embranchements. Egwen bascula dans un autre rêve, puis un autre, et encore un autre. Tous ne concernaient pas l'avenir. Des rêves où elle embrassait Gawain, ou courait dans une douce prairie printanière avec ses sœurs, comme dans son enfance. Le tout mêlé à des cauchemars où des Aes Sedai, brandissant un fouet, la poursuivaient dans des couloirs sans fin, où des créatures difformes jaillissaient des ombres tout autour d'elle, et où la terrible Nicolas, rayonnante, la dénonçait devant le hall, puis invitait Tom Merrilline à venir présenter les preuves de ses forfaits. Et Gwen écarta les cauchemars les plus absurdes. Les autres, elle les mit de côté, afin de les analyser plus tard, et de déterminer leur sens. Debout devant un immense mur, elle tentait de le détruire à main nue. Cet obstacle n'était pas composé de pierres ni de briques, mais d'une infinité de disques noirs et blancs, l'antique symbole des Aes Sedai, jadis chargé de fermer la prison du ténébreux. Bien que le pouvoir de l'unique lui-même fût réputé incapable de briser le Quendiyar, certains de ses sceaux étaient bel et bien cassés, et les autres faiblissaient. Pourtant, ce fichu mur semblait indestructible, impossible de le déchirer comme un rideau. Était-ce le symbole qui comptait? Voulait-elle en réalité détruire la Tour Blanche? Ou écorcher vive les Aes Sedai? Qui pouvait savoir? Assis au sommet d'une colline enveloppée de ténèbres, Matt assistait à un feu d'artifice donné par les illuminateurs. Soudain, il tendit une main et saisit en plein vol un des traits de lumière. Des éclairs jaillirent de son poing fermé, et Egwen fut glacé de terreur. Des hommes allaient mourir à cause de ça, et le monde en serait transformé. Mais il se transformait en permanence, et il en allait ainsi depuis toujours. Autour de sa taille et de ses épaules, des liens maintenaient Egwen sur le billot. La hache du bourreau s'abattait déjà. Pourtant, Egwen savait que des gens couraient quelque part. Et s'ils allaient assez vite, la hache s'immobiliserait. Sinon... Dans le coin de son esprit qui ne dormait pas, la jeune femme frissonna. Hilar, Loghain enjamba quelque chose sur le sol, puis sauta sur une pierre noire. Baissant les yeux, Egwen eut le sentiment que le faux dragon venait d'enjamber le cadavre de Rand, étendu dans un cercueil, les mains croisées sur la poitrine. Mais quand elle toucha le visage du mort, il se déchira comme une vieille tapisserie desséchée. Un faucon doré déploya ses ailes et toucha Egwen. D'une façon ou d'une autre, l'oiseau et elle étaient attachés ensemble. Et il s'agissait d'un faucon femelle. Un homme agonisait dans un lit étroit. Il était important qu'il ne meure pas, pourtant, dehors, on préparait un bûcher funéraire, et des chansons à la fois gaies et tristes résonnaient dans l'air. Un jeune homme à la peau noire tenait dans sa main un objet si brillant qu'Egwen ne put pas voir de quoi il s'agissait. Les songes défilaient, et elle étriait fébrilement, tentant désespérément de comprendre. C'était épuisant, mais il fallait accomplir son devoir. Egwen Alvéré ferait ce qui devait être fait.